numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa numéro 1.
This is Europe number 1.
Reculez ! Les étudiants chargent ! Eh bien, les policiers ont reculé, même les CRS se font, ont formé un espèce de toit avec leurs boucliers.
Roulez, roulez avec Europe 1.
Oui ! 48,85 ! 48,85 ! Marie-Josée Perrecht est championne olympique !
Pierre Lescure !
Et voilà, c'est SNC qui recommence.
Voici Jacques-Yves Cousteau, que je suis particulièrement heureux d'accueillir en public, en direct aujourd'hui, avec tous les auditeurs et les amis d'Europe 1.
On va rire, on va chanter et s'amuser.
Bonjour à tous. Le Cisco avec Jean-Paul Roulant, Jacques Roulant, Harold Kay. Bienvenue à vous dans le studio Louis Merlin, 26 bis rue François 1er pour cette nouvelle édition des Enfants d'Europe 1. Des grands enfants d'Europe 1, figurez-vous que j'en ai trois en face de moi. Il fallait bien cela pour cette avant-dernière émission de l'année, en ce dimanche, avant-veille de Noël. Ils ont en commun de m'avoir séparément déjà fait l'honneur de leur présence dans l'émission. Aujourd'hui, ils se présentent en formation avec leur talent, leur bonne humeur et une vertu qu'ils cultivent mutuellement, réciproquement et l'une ou l'une vis-à-vis des autres. J'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir dans ce studio deux animateurs et un réalisateur, Madame Denise Fabre, bonjour Denise.
Bonjour Marc.
Monsieur bonjour Christian Morin, bonjour Christian.
Bonjour mon petit Marc.
Et monsieur Pampan, alias Pantin, alias Jean-Marie Pantalacci. Salut Jean-Marie.
Bonjour Marc.
Habitué de cette émission. Je vous ai convié à cette sauterie parce qu'on va évoquer Noël, bien évidemment. Il est des marronniers qu'il faut savoir effeuiller. Et dans les archives de la station, on a de quoi faire. Vous allez vous en rendre compte du sérieux ou du pas triste. Allez, on va commencer par un bon cru. 1956, la maison va sur ses 2 ans. Et si vous voulez savoir ce que pouvait donner un reportage d'avant-réveillon à cette époque-là sur Europe numéro 1, écoutez bien ce qui suit.
Eh bien, pour savoir comment va se passer ce réveillon à Paris, il suffit de poser des questions. Nous sommes sur les grands boulevards, dans un café, près de nous. Ces cahutes qui ont été construites à la dernière minute et qui permettent de vendre ces 1001 petits produits, ces 1001 petites choses qui sont nées de l'ingéniosité des Parisiens. Mais tout de même, madame, vous êtes avec nous maintenant. Que comptez-vous faire pour ce réveillon?
Eh bien, pour mon réveillon, je vais passer mon réveillon avec mes enfants.
Vous en avez combien, madame?
Deux. Oui, un de 20 ans et un de 18 ans.
Un de 20 ans et un de 18 ans, mais ce ne sont plus des enfants, ce sont presque des hommes déjà.
Des jeunes hommes, oui, des beaux jeunes hommes.
Que leur avez-vous offert pour ce réveillon?
Eh bien, un briquet.
Un briquet au plus grand, 20 ans.
Au plus grand, oui.
Et celui de 18 ans ne fume pas?
Ah, si, aussi. Mais alors lui, il voulait autre chose, un portefeuille.
Oui. Qui ça? Vous, monsieur?
Moi?
Oui, je vous ai repéré. Vous ai repéré tout à l'heure, alors que vous faisiez vos achats, vous avez un accent méditerranéen qui ne trompe pas.
Ah,
vous n'êtes pas parisien?
Non, je suis marseillais.
Ah, je le savais, vous êtes parisien.
Oui, oui.
Et que faites-vous à Paris pour
dire la voix que j'ai du midi?
Ah, c'est très net.
Pourtant, je l'ai perdu l'accent depuis que je suis à
vous
Paris.
Vous l'avez perdu, c'est une idée que vous vous faites, voyez-vous.
Pensez-vous.
Pensez-vous.
Quand je descends à Marseille, on me dit que j'ai l'accent pointu.
Et vous avez l'accent pointu?
Ce qui paraît, on me dit.
Alors, avec cet accent pointu, qu'est-ce que vous allez faire ce soir à Paris?
Je vais manger la dinde, qu'est-ce que vous allez manger?
La dinde? Mais c'est pas marseillais, ça, une dinde. Pas d'aïoli.
Ça fait rien, je vais faire comme les parisiens pour une
fois.
Quand je serai à Marseille,
vous avez une bonne adresse pour cette dinde à la marseillaise que vous allez prendre à Paris?
Ça à Paris?
Oui.
On l'a fait à la maison.
À la maison,
évidemment. Avec la rouille, avec un peu de pastis. Vous
cette
savez.
Discrétion marseillaise est une chose extraordinaire. Nous n'aurons pas d'adresse auprès de ce monsieur. Ah, mais dans tous les cas, cher monsieur, bon Noël.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Mais vous, monsieur, vous n'êtes pas marseillais?
Ah, moi, je ne suis pas marseillais, non.
Vous êtes un parisien nature.
Un parisien. Alors, un parisien nature pour son réveillon.
Eh bien, ma foi, pour le réveillon, moi, je m'en vais dans un petit restaurant. On va casser la croûte, là, du côté de Champigny.
Numéro 1 ne peuvent pas deviner parce que vous me dites simplement je vais dans un petit restaurant, mais vous avez un œil
alors attendez
autre chose.
Alors je vais dans un petit restaurant à Champigny chez la mère Odile, là où on va faire notre petit casse-croûte, le boudin blanc et certainement la petite dinde comme il se doit, et puis alors après on va aller danser un petit peu.
Oui, après je suis pas tout seul.
Ah non, je suis pas tout seul, et puis alors je serai peut-être pas tout seul en revenant non plus.
Ah, c'est ce que vous appelez votre cadeau de Noël.
Ah bah c'est mon cadeau de Noël. Je me le fais tout seul.
Au hasard, le soin de vous l'offrir.
Au hasard, le soin de me l'offrir.
Bonne chance, cher monsieur.
Merci beaucoup.
Mais nous avons maintenant un autre candidat au réveillon, monsieur. Comment ce réveillon va-t-il se passer pour vous?
Ah, vous savez, pour moi, ça va être assez simple parce que je suis un jeune marié. Il y a 8 jours, je suis marié. Alors, comprenez-vous, j'ai le pensé avec ma femme. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose à peu près bien, un petit sapin, quelques petits cadeaux. C'est tout à fait normal, vous savez. Et cette année, ce sera peut-être pas bien, bien formidable, mais l'année prochaine, on fera mieux. Vous savez, les temps sont durs. Mais quand même, j'espère qu'on pensera un réveillon charmant.
Mais lui aussi, vous ne pouvez pas le comprendre très exactement, parce que Vous n'entendez au fond que ses paroles, mais vous ne voyez pas son sourire et vous ne voyez pas cette satisfaction qui se lit sur son visage. Je crois que pour lui aussi, ce sera un excellent réveillon, un très très bon réveillon.
Ils sont dissipés, ces enfants d'Europe 1. Ils n'arrêtent pas de rigoler pendant qu'on passe les sons. Là. Christian Morin, dont Denis Fabre disait tout à l'heure que c'était le meilleur profil qui s'offrait à moi. Là,
oui, surtout pour la radio.
Pour la radio. Bah oui, mais il faut donner les informations.
Je voulais l'offrir à Denis.
Je ne suis pas du bon côté.
C'est un cadeau de Noël.
Oui,
l'ennui, c'est qu'en 56, Denis n'était pas né.
Oh.
Christian. Moi j'étais à Paris.
À Noël 56. Courte,
oui.
Noël 56, oui. Oui, Denis.
J'étais pas encore entré à la télé.
Ah,
j'étais.
Oui.
Non, 56, non.
Ah non.
Non, mais quelques années après, en 60-61, je commençais quand même sur Télé Monte-Carlo.
Oui.
Et j'arrivais à Paris vers 63-64. Donc vous voyez, mon cher Christian, là, je sens que le poids des années lui pèse sur les épaules. Il se dit, mais comment vais-je lutter ?
C'est la première fois que tu vous vois. Moi, en 56, je venais pour la première fois à Paris.
On peut y aller, on peut se tutoyer.
Et j'allais au Cirque d'Hiver voir mes idoles de l'époque, puisque je voulais être clown, encore que j'ai fait un métier un peu parallèle depuis. Mais j'ai été rencontré surtout Achille Zavatta et Albert Fratellini. Et j'avais été subjugué par cette rencontre avec ces gens-là. Donc c'est un souvenir merveilleux. Et j'ai rencontré près d'un petit hôtel où nous logions avec mes parents un homme qui m'avait fasciné dans tous les films. De le croiser dans la rue, c'était Jean Marais. Que j'ai interviewé beaucoup plus tard.
Jean Marais en 56
Moi en 56, je commençais à écouter Europe 1, donc c'était déjà un cadeau formidable.
Alors vous, sans être indiscret, tous les trois, vous allez passer Noël comment? Comme chaque année, selon une tradition familiale bien établie, ou bien c'est chaque année particulier, Denise?
En famille.
En famille.
Oui, en famille. Tranquillement,
y a rien de mieux, hein.
On se réunit tous.
Ouais. Voilà, Christian.
Moi, je vais être avec Jean-Marie et on est invité chez Denise.
En famille.
Absolument. Non, figurez-vous que pour Noël, non, cette année, j'ai accepté de donner un concert. Je donnerai un concert au Casino Barrière de Deauville. Voilà, en trio.
On travaille ce jour-là?
Oh oui. Mais après, je vais souper, comme on disait autrefois.
Jean-Marie, c'est rigueur
famille, non, famille, dans les Landes, où ils ont des beaux pains là-bas pour faire le sapin, c'est pratique.
Oui, mais pour mettre les boules, c'est un peu
ce qu'il faut.
Alors moi, c'est la Normandie pour Noël, et puis Nice pour le premier
pour
le 31.
Oui. Mais je parlais du Périgord, Jean-Marie, c'est quand même ta région, non?
Oui, c'est ma région. Ouais. Non, l'année prochaine, ce sera le Périgord.
Alors ce bonjour, monsieur le maire, est pour toi. Document décembre 69.
Ici Pierre Bonte. Traditionnellement, Noël et le jour de l'an sont les deux jours de l'année où l'on consomme le plus de foie gras en France. Et cette tradition gastronomique fait le bonheur d'une commune telle que Thiviers. Thiviers, T-H-I-V-I-E-R-S, en effet, se trouve dans le Périgord, qui est la patrie du foie gras. Et c'est en outre l'un des plus importants marchés au gras, comme l'on dit, qui est très fréquenté, très animé. Vous allez d'ailleurs en avoir tout de suite un écho sonore qu'a enregistré Claude Bobin. C'est une discussion, moitié en patois, moitié en français, entre un petit producteur de foie gras et un acheteur.
Combien de voulais-tu?
2000 chimes.
Combien?
2000 chimes.
2000 chimes, c'est bon?
2000 chimes, cher.
Ah, bon, quelqu'un, mais vous venez par là, à l'ancien fond.
Oui.
Mais alors, c'est pas ton dernier prix.
Merci, mais je vais en tirer un petit peu, mais... Je vais en tirer un petit peu.
Allez, tu vas, écoute-moi, mon
bon.
Ils sont un peu sanguins.
Comment sanguins?
Oh,
monsieur, vous moquez pas de moi, dites, regardez ça, voyons.
Mais enfin, il y a plus beau.
Oh, il y a plus beau, il y a plus beau, mais...
Tu en as fait de plus beau.
Oui, d'accord, mais enfin, quand même, c'est déjà pas mal.
C'est le début, quoi.
C'est déjà pas mal.
Écoute-moi, mon drôle.
Oui.
On va gagner un champion sur tout loudou.
D'accord.
Allez,
toi,
me tireras un petit poney.
Oui, un petit poney, oui.
Allez, combien me tireras-tu?
Faut pas te tirer. Là, on fait un coup de terroir, 2000 ans.
2000 ans?
Oui.
Dans l'estomac.
Allez.
Éteigne. Et puis je te paierai
d'accord.
En liquide.
Entendu.
Tu n'auras pas besoin d'aller faire la queue pour avoir ton chèque. Comprends-tu?
D'accord.
Allez, à tout à l'heure. Je vais voir si je trouve maintenant des œufs bien frais.
Entendu.
Voilà donc l'ambiance de ce marché au gras de Thiviers, qui est resté très traditionnel. Mais à propos des truffes, qui sont d'une très grande qualité dans la région, signalons que pour les rechercher, l'on continue d'utiliser les truies dans cette région du Périgord vert. Et monsieur le maire, monsieur Émile Combelat, nous a appris qu'il existait, pour ce faire, des équipes spécialisées, tout comme en matière de déminage.
Tous les trufficulteurs n'ont pas de truie pour chercher leur truffe. Ce sont des personnes qui ont une truie qui a été dressée spécialement et qui vont les chercher chez les gens, ce qu'ils leur demandent. Et ils sont rémunérés en nature. Il n'est pas payé en argent, il est payé en nature. Il demande de la truffe. Et lui, après, on les vend.
Son pourcentage de truffe.
Oui, oui. Et après, il les porte sur le marché, il les vend.
Ça, c'est un métier.
C'est un métier.
Il se loue avec sa truie.
Absolument.
Comment appelle-t-on ce métier ?
En patois, on dit une truffe aérée.
C'est un chercheur de truffes.
Chercheur de truffes, oui.
Ainsi se termine cette émission consacrée à Thiviers, T-H-I-V-I-E-R-S, chef-lieu de canton de 3600 habitants, situé à 40 km au nord-est de Périgueux, dans la Dordogne.
Qu'est-ce qu'on en apprenait des choses avec bonjour monsieur le maire, Jean-Marie?
Oui, en écoutant le début du reportage, ouais. On est loin des achats par internet, là, quand même.
Ah oui, on est même directement dans la vente. Hein. C'est pas la France en bas, c'est pas la France profonde, tout ça est toujours un petit peu péjoratif, c'est la France réelle.
Puisqu'il faut associer toujours ses souvenirs à Europe. On avait fait une journée, vous vous en souvenez, chez Pierre Perret, pour le premier jour de l'été, en 76, si ma mémoire est bonne, et Pierre Perret m'avait donné une recette du foie gras aux pâtes fraîches. Alors vous saupoudrez votre foie gras que vous avez remis à température en fines tranches. Dès que les pâtes fraîches arrivent chaudes, on met le foie gras avec un peu de pelure de truffe. Vous mélangez, le foie gras graisse les pâtes, il faut manger tout de suite. C'est délicieux. Et un jour, je tournais pour la télévision italienne avec dans mes bras Ornella Muti, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que vous vous dites tous les deux? J'étais en train de donner la recette à Ornella Muti qui dit, mais moi j'ai un problème parce que je suis méditerranéenne, j'ai toujours, quand je fais les tournages, toujours la bascule parce que je grossis quand je mange. Voilà. Les pâtes fraîches au foie gras. Tu
connais une jolie pâte. Ouais. Bah oui, parce que je veux dire, tu t'adresses quand même à la femme d'un pâtissier, d'un cuisinier, d'un restaurateur.
Et un pâtissier, forcément un grand chef d'ailleurs. C'est Monsieur Le Nôtre qui me l'avait dit.
Oui. Question, on parlait de Pierre Monde. Je t'entendais dire là, c'est ton voisin?
Oui, nous habitons dans le même quartier, derrière la maison de la radio à Paris. On se croise assez souvent. Je vais te dire, même on se croise chez l'épicier avec un petit filet à pommes de terre. Quelquefois, ça nous arrive. Et ce qui m'a frappé tout à l'heure, c'est que la voix de Pierre n'a pas changé du tout.
Ton voisin à toi dans le Périgord,
Pierre Belmar.
Ah oui,
Pierre Belmar.
Ah bah oui, c'est pas mal. Pierre Belmar qu'on peut associer à nombre d'émissions de jeux dans cette maison, les histoires extraordinaires, la grande corbeille, 20 millions cash, les dossiers d'Interpol et au début d'Europe numéro 1. Vous êtes formidable. Première véritable émission interactive, Jean-Marie, ce sont les auditeurs qui, en relevant le défi souvent humanitaire que leur proposait Pierre Belmar, ont fait le succès de l'émission, en fait.
Absolument.
C'est la première émission interactive. Et à Noël, tout particulièrement, les grandes causes étaient celles d'Europe 1, imaginées par Louis Merlin, qui a donné son nom au studio où nous sommes actuellement, et mise en onde par Pierre Belmar. Nous sommes en décembre 1961.
L'opération 40 millions de lumières. Mes chers amis, bonsoir, c'est Pierre Belmar qui vous parle. Dans quelques instants, nous allons savoir si cet appel de Vous êtes formidable a été suivi. Nous allons savoir si vous avez été formidable. Si l'un des problèmes humains et sociaux les plus dramatiques de notre pays va trouver en cette veille de Noël, d'un seul coup, sa solution. Nous allons savoir enfin si en cette nuit de Noël 1961 va naître une nouvelle tradition, la tradition des 40 millions de lumières. En deux mots, je vous rappelle ce que nous espérons. Voilà. Suivant une tradition qui remonte aux premières années du Second Empire, les Lyonnais illuminent leur ville le 8 décembre de chaque année avec de petits godets en verre blanc ou teinté, garnis d'un pain de stéarine qui brûle pendant 3 heures. Si toute la France adopte désormais cette coutume pour ce merveilleux soir qui précède Noël, si chaque 24 décembre, la France illumine toutes ses fenêtres, depuis le haut jusqu'au bas des maisons, depuis l'est jusqu'à l'ouest, de la chaumière au palais, non seulement il y aura plus de gaieté et plus de chaleur dans les rues, non seulement nous serons tous plus heureux ce soir-là, non seulement commencera dans une féerie de lumière une tradition de Noël extraordinaire, mais chaque fois que vous allumerez une lumière, vous allumerez 3 heures de joie pour un être condamné au désespoir. Vous donnerez 3 heures de vie à celui qui n'ose plus attendre que la mort. Il y a, je vous l'ai dit, entre 300 et 350 cas de jeunes paralysés annuellement. Il s'agit donc de rassembler des sommes énormes, et ce, chaque année. Hélas, il n'y a pas encore d'exemple qu'un appel à la générosité renouvelé chaque année et retrouvé chaque année un succès égal. Voilà pourquoi Louis Merlin a pensé créer avec vous la tradition annuelle des 40 millions de lumières. Depuis lundi dernier, plusieurs millions de ces petites lumières, identiques à celles de Lyon, ont été répartis dans les 27 000 points de vente des magasins d'alimentation à succursales multiples, portant l'affiche 40 millions de lumières. Ces petites lumières valaient un nouveau franc pour les blanches, un nouveau franc 25 pour celles qui sont en couleur. Bien entendu, ces commerçants ont renoncé à tout bénéfice, de façon à ce que ce bénéfice aille à l'association des 40 millions de lumières qui les répartira entre deux œuvres spécialisées dans l'installation d'ateliers protégés et de logements pour paraplégiques. Quel va être le résultat de cette opération ? Le grand espoir qu'elle a fait naître parmi les paralysés sera-t-il justifié ? C'est ce que nous allons savoir dans quelques secondes. À Lyon, ce sont les cloches de Saint-Jean et Saint-Georges qui donnent le signal dès que vous les entendrez, chers amis. Ce sera pour vous le moment d'agir, c'est-à-dire d'allumer les lumières et de les placer à vos fenêtres. Maintenant, à vous, chers amis, soyez formidables.
Voilà, et ce soir-là, ce fut un succès, comme ce fut généralement un succès dans les émissions interactives de Pierre Bellemare. Aujourd'hui, on a le Téléthon, on a les Virades de l'Espoir, mais en fait, on a inventé à Europe 1 l'émission interactive. Jean-Marie, toi, t'as bossé beaucoup avec
Pierre. J'ai beaucoup bossé avec Pierre, pas sûr que vous êtes formidable, mais là, vous avez un exemple du talent de Pierre Bellemare,
oui.
Sa force de conviction, et il arrivait à mobiliser les auditeurs qui étaient tout prêts à être mobilisés, d'ailleurs, mais il donnait l'impulsion d'une façon fantastique.
Et pendant qu'on l'entendait, on parlait avec Denise et toi, Jean-Marie, il devait avoir une trentaine d'années, là, avec la voix qu'on vient d'entendre. Je suis surpris de la maturité, déjà, dans le timbre, dans la façon dont il s'exprimait, dans la façon qu'il avait de persuader les gens, de convaincre les gens.
Il les a toujours convaincus.
Mais toujours. Moi, je l'ai toujours comparé à mes maîtres à l'école des Beaux-Arts, mes profs de dessin, parce que c'est un exemple, Pierre.
La Père Noël, c'est un homme orchestre aussi, parce il a su tout faire sur cette antenne. Et
il continue, parce qu'il y a deux ans, il a enregistré La Passion de Peggy dans la cathédrale de Saint-Front de Périgueux. C'est un exercice qui est difficile, c'est une heure de texte sans support, sans musique, sans rien. Et il le refait à la Semaine Sainte dans toutes les petites églises du Périgord, en direct, avec son texte simplement. Et c'est un exploit formidable, et chaque fois avec une persuasion, c'est extraordinaire.
Ah oui, c'est formidable.
À l'occasion, je redescendrai bien. Tiens, tenez-nous au courant, Jean-Marie.
Je t'invite.
Voilà.
Toi aussi, Denise.
Oui, bien sûr.
Moi, Saint-Front, c'est un souvenir aussi rapide. J'ai fait la première messe en jazz dans l'église Saint-Front en 1966.
Que de talents réunis, et les rendez-vous sont pris. On se retrouve dans un instant.
Marc Tronchot jusqu'à 17h.
Les enfants d'Europe 1, j'allais dire les enfants de Noël, réunis autour du sapin. Ces grands-enfants, ce sont Denis Fabre, Jean-Marie Pantalacci et Christian Morin. Dit Pampan, oui, effectivement. Bon, par des surnoms, il y en a plein. on écoutait Bellemare tout à l'heure. Parmi les membres du club Bellemare, il y avait les frères Roulant, il y avait Jean-Marc Épinou, il y avait Harold Kay aussi.
Harold Kay, bien sûr.
Et Harold Kay qu'on retrouve un soir de 1973 en chef de chorale. Chorale un peu particulière puisque composée exclusivement d'animateurs et de meneurs de jeux de la station. Et voilà ce que ça donnait.
Un, deux, trois. À 6h de la grenelle en chantant.
3, 4.
J'étais à la cheminée en chantant.
5, 6.
Mes bottines étaient vides. C'est vraiment très bizarre. Ou alors le Père Noël est en retard.
7, 8.
À 7h de la grenelle en chantant. Le Père Noël n'est vraiment pas très marrant.
12, 8.
Mes bottines étaient vides, il n'y avait rien dedans. C'est peut-être que j'ai été trop méchant. Youpi, 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 c'est Noël. Youpi, 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 c'est Noël. Youpi, 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 c'est Noël.
1, 2.
Arrivé à Europe 1 depuis peu de temps.
5,
6. J'ai entré le studio en râlant. Mes copains, mes copines m'ont dit en rigolant, tes cadeaux tu les auras au nouvel an. Puisqu'attendre 8 jours c'est pas marrant.
Quinto.
Puisqu'attendre 8 jours c'est pas marrant. Autant rigoler tout de suite. Tout en chantonnant, c'est encore à Europe 1 que c'est plus marrant.
Attention les cœurs.
Youpi, 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 c'est Noël. Youpi, 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 c'est Noël. Youpi, 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 c'est Noël.
Le musicien Christian Morin appréciait à sa juste valeur.
Bien sûr.
Hein,
je devais y être.
T'étais dedans, hein.
Oui. Avec Julie.
Oui.
Il y avait Julie, il y avait Anne Pérez, Viviane Blassel, Robert Villard.
Oui, oui.
Il y avait une vraie solidarité entre les animateurs.
Ouais.
Ah, et alors je dois dire qu'à Europe, ce que j'ai connu, moi, cette période-là, les 15 ans à Europe, ça a toujours été formidable. Les
15
rapports,
ans, super.
Les rapports vraiment.
Bah, Denise, 3 ans, bah, c'est 3 pas
ans.
Mal non plus.
Ah, mais moi, j'ai trouvé que c'était. Moi, j'ai passé des moments merveilleux à Europe. Des fous rires. Parce que la radio, c'est pas comme la télé. La radio, on peut y aller. Je veux dire, il n'y a pas l'image. On peut être vraiment nature. On arrive, quoi. Et puis c'est sympa. Franchement, c'est très sympa. J'ai passé des moments fabuleux. Il y avait un sacré esprit d'équipe, sauf le fameux soir où tout d'un coup on vous appelle à minuit parce que Gérard Klein, tout d'un coup, part rejoindre la femme de sa vie.
Qu'il aimait en Argentine.
Voilà, absolument. Et on était en plein sondage très important. Et on me dit demain matin, vous serez là à 9h au lieu de prendre à 11h. Moi, je faisais
un
jeu tranquille.
T'as bien fait de venir parce que notre directeur des programmes à l'époque, André Kletman, c'est moi qui l'ai appelé puisque je faisais l'antenne le soir.
Et c'est toi qui l'as prévu.
On m'a téléphoné en me disant voilà, Gérard te fait dire de prévenir René, il a pris l'avion, etc. Donc, quand
c'est
je l'ai dit.
CESP.
Ouais, et au bout du poste, les gens ne s'en rendent pas compte et c'est ça le miracle, parce qu'ils n'imaginent pas, je veux dire, tout ce qui se passe dans les coulisses, les défections, pourquoi pas, les
et
gens qui, comme
que
toi, au pied levé, viennent remplacer quelqu'un, les réalisateurs qui sont en régie, comme ils le sont encore aujourd'hui, ouais. Et qui veillent à ce que les sons soient les plus nets possibles, tout se déroule bien. Mais c'est une machine. C'est un vrai miracle quand même que ça fonctionne comme ça 24h/24.
À propos, je reviens, Marc, sur ce que tu disais à l'instant. L'entente et les rapports humains sont très importants dans ces cas-là. Il n'y avait pas de jalousie, puisque quand Denise a hérité du matin de l'horaire de Gérard Klein, moi, par conséquent, j'ai hérité de la tranche qui suivait, c'est-à-dire pile ou face.
Oui, c'était le jeu.
Donc, mais c'était bien. Il n'y avait pas de jalousie intestine de machin va faire telle heure, moi je ne fais que telle heure.
Non.
C'était pas ça. Cet état d'esprit n'existait pas.
Il vous est arrivé aux uns et aux autres de passer Noël ou le réveillon du Nouvel An pour la station.
Ah oui.
Oui. Moi, j'étais partie à Tokyo. Moi, je crois qu'on m'a envoyée à Tokyo.
C'est Noël autour du monde, c'est ça ?
Oui,
deux années Tokyo. De suite, formidable.
Moi, j'ai fait une seule année à Tokyo. Je suis partie avec Jean-Marc.
Oui,
Véran.
Jean-Marc Véran, qui était réalisateur.
On était partis tous les deux et on s'est dit, bon, on va réveillonner là-bas. On avait apporté une petite bouteille de champagne.
Mais il s'agissait d'intervenir en direct sur l'antenne.
Oui, c'est-à-dire
qu'à des heures différentes en fonction
voilà,
du fuseau horaire.
Minuit,
à l'initiative, il y avait, tu te souviens, Claude Varnier, le directeur technique de la station, qui avait mis au point avec Air France, en association. Du 31 décembre midi au 1er janvier midi, toutes les deux heures, on avait une émission du bout du monde,
voilà.
Un réveillon du pays.
Mais nous, tout était fermé. Hein.
Voilà. C'est-à-dire alors à Tokyo, tout est fermé terminée, parce que c'est très particulier.
C'est la fête des morts le lendemain.
Ouais, oui.
Ah oui.
Et donc, alors tout était fermé, tout s'est retrouvé. Pardon ?
Ça n'a pas été gay du tout, ça, alors.
Ça n'a pas été gay, mais c'est pas... à l'antenne, ça se passait très bien. C'était très gay à l'antenne. Mais nous, ensuite, on attendait l'avion du lendemain matin. On s'est retrouvés tous les deux perdus parce qu'au bar, on a eu un jus d'orange ou je ne sais quoi.
Oh là 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 là.
Oh, c'était terrible.
Jean-Marie ?
Moi, j'ai eu la chance d'aller à Sainte-Lucie. Non, à Sainte-Lucie avec Maryse. Le problème, c'est qu'on est parti le vendredi matin, qu'on est revenu le dimanche soir. Donc c'était un peu court, mais
c'était pareil, c'était bien.
Moi, la première année, j'ai hérité de Anchorage en Alaska. Je suis resté 8 jours. Et la promo, il y avait une promotion qui passait à l'antenne. Denise Fab sera depuis Tokyo pour vous souhaiter une bonne année. Un tel sera à tel endroit, Maryse, donc à Sainte-Lucie, etc. Et ma mère me dit, mais ils s'en vont tous à l'autre bout du monde. Pourquoi tu vas en Corrèze? Mais je lui dis, je ne vais pas en Corrèze, maman, je vais à Anchorage. C'est la capitale de l'Alaska, où ça a été extraordinaire. Et l'année suivante, j'ai été un peu comme Jean-Marie, 3 jours seulement à Rio, en aller-retour.
Mais tu es devenu la préfecture de l'Alaska.
Exactement, oui, j'ai appris ça.
Oui. Vous avez un souvenir d'un bon Noël en particulier, un jouet, un lieu, un moment, Denise ?
Moi, c'est la télé, c'est pas Europe 1, mais c'était la télévision, parce que bon, c'est les petites qui venaient quand même m'embrasser, parce que j'étais bloquée le soir de Noël, la veille de Noël, et que j'étais d'antenne. Donc, on est d'antenne, je prenais mon service à 4h, et je terminais à 1h ou 2h du matin. Donc, elles arrivaient, elles me préparaient dans la loge une petite table avec leur père, bien sûr, et puis avec un petit bout de gâteau et tout, et on fêtait Noël ensemble. Ils avaient apporté le petit sapin tout petit.
C'est sympa, ça.
C'était mignon, ça. Ah oui.
Christian,
souvenir de Noël. Il y a
même d'enfance.
Oui, d'enfance. Mon père fabriquait non seulement une crèche, mais une petite maison et avec la lumière à l'intérieur. Ça me fascinait. C'était déjà un spectacle pour moi et l'envie d'aller vers le théâtre. Mais surtout, j'avais commandé un camion. Et il y avait la lumière, on mettait une pile au fond du camion, et il y avait la lumière. Et en tournant le volant du camion, ça faisait tourner les roues, je devais avoir 7 ou 8 ans à peu près. Ça, c'est simple, hein, comme cadeau.
Jean-Marie.
Alors moi, c'est lié à Europe, parce que j'y ai passé un certain nombre d'années.
Ah, t'es alors, pas né ici, quand même.
Je suis pas né ici, non.
Certains le disent, remarque.
Oui. Hein? C'est un souvenir lié, c'était à l'époque, en 77, je crois, on avait fait une série d'émissions avec Daniel Gilbert l'après-midi, en Alsace, et c'était à l'époque de Noël. Et la veille de Noël, tout le monde rentrait sur Paris, parce que tout le monde avait sa famille. Moi, j'étais le seul célibataire. Donc, j'étais resté à Strasbourg pour garder le matériel, les voitures, etc. Ouais. Et on m'avait dit, tu vas voir Noël en Alsace, c'est super, et tu parles Charles. On est arrivé à Strasbourg à 17h, tout fermé, splendides illuminations.
Et
j'ai réveillonné, où ça? Au buffet de la gare à 15 steak frites. Parce que tout le reste était fermé.
Vous vous souvenez de la chanson que Claude François le jouait extraordinaire?
Ah oui.
Ouais. Ouais. Vous voulez savoir quel jouet a marqué Johnny Hallyday? Ben, c'est sur Europe 1, c'est en 91. Et la chanson qui suit, c'est un twist de Noël retrouvé également dans les archives de la station.
J'étais à Londres, à l'époque je vivais à Londres parce que j'ai été élevé par la sœur de mon père qui avait une fille qui s'appelait Esther Hallyday et elle dansait le lac des Cygnes à Londres pendant un an et demi. C'est là qu'elle a rencontré Lee Hallyday d'ailleurs. Et ma mère était venue me voir pour Noël, elle m'avait ramené un appareil de projection de film. Mais à l'époque, tu sais, c'était pas comme maintenant tout automatique, c'était en carton d'ailleurs, on mettait des petits films dedans et c'était un manivelle. Et alors, on tournait, puis ça projetait sur le petit écran en carton qui faisait partie du jeu. Et comme ça, je regardais mes premiers films.
Ah oui.
Et ça m'a toujours marqué.
C'était des
dessins animés, des choses comme ça, oui. Donc, vraisemblablement, c'est de là qu'est de me venir la passion du cinéma, d'ailleurs.
Et t'avais quel âge, là?
Oh, je devais avoir 6 ans. J'ai un cadeau pour le Père Noël. Un beau cadeau pour le Père Noël. Ce cadeau-là, c'est moi qui l'ai choisi. Et je vous jure que j'y ai mis le prix.
Johnny Hallyday dans les années 60, même à Noël, on peut avoir du twist. Johnny Hallyday qui peut être considéré comme Sylvie Vartan comme un véritable enfant d'Europe 1, lui aussi. Hein. Il y a eu des podiums, il y a eu des musicorama, des saluts les copains. Il a même parfois dormi dans ce studio, Louis Merlin. C'est ce que m'a raconté un jour Christian Barbier dans une de ses émissions. Johnny Hallyday, enfant d'Europe 1. Hein.
Moi, je l'ai vu arriver un soir ici, dans ce studio avec Christian Barbier. On faisait à l'époque minuit, 3h du matin. Ouais. On l'a vu arriver à 2h du matin avec Philippe Labro. Il venait d'enregistrer la version chantée de la 7e de Beethoven.
Exact.
Que Philippe avait écrit pour lui. Il nous a amené le disque ce soir-là. Et voilà, ça se prolongeait tard après.
La 7e de Beethoven.
Oui.
Ah oui.
Son histoire malheureuse a même commencé d'une certaine manière, puisque Lucien Maurice avait cassé un disque de Johnny Hallyday au tout début, en disant on ne passera jamais ça à l'antenne. Et puis, bonjour, c'est Johnny.
Denise, il fait partie des personnalités que tu as interviewées, non?
Moi, j'ai présenté toute sa tournée d'Idole des Jeunes, quand même.
Et alors?
J'entrais par là, je commençais à dire ce que j'avais à dire parce que je l'annonçais, donc c'était tout le monde tapait sur les sièges et tout, personne n'entendait, je ressortais, mais morte de trouille de l'autre côté, et j'ai fait son Olympia aussi, c'était pareil, mais je crois que ça devait amuser, ça devait amuser Cocatrix, ça devait les amuser, j'étais mais morte de peur, de trac, j'entrais, parce qu'en fait personne n'écoutait ce que je disais, il n'avait qu'une envie, c'est de voir arriver Johnny, et moi il se demandait mais qu'est-ce qu'elle vient faire celle-là au milieu.
C'est pas commode.
J'entrais doucement toute seule comme ça, avec le micro, je commençais d'ailleurs en coulisses, et puis je repartais vite de l'autre côté, mais bon, je m'entendais très bien avec toute l'équipe, donc tout va bien.
On n'imagine pas ce par quoi passent certaines personnes, hein. C'est des épreuves quand même, hein, tout
mais
ça.
Sont des oui. métiers, c'est
ben oui,
ce que j'aime
que
bien.
Je suis très timide au fond.
Ce sont des métiers justement où il y a plusieurs choses. Mmh. Tu parles de l'Olympia. Un jour, Jacques Marouani m'appelle en me disant tiens, j'ai une bonne idée, il faudrait que tu présentes l'Olympia. C'était en 76, le premier Olympia de Dave.
Ah, ouais.
Il y avait en vedette américaine Jim Manson, qui avait un plus grand orchestre que lui d'ailleurs, en fin de première partie. Là aussi, il faut, comme disait Denise, il faut meubler. On est là en tant que présentateur. J'ouvrais le spectacle en jouant avec le grand orchestre de l'Olympia et de la clarinette. Et j'avais un texte que m'avait préparé Marie-Thérèse Cuny, qui travaillait avec Belmar. Il me fallait un texte parce qu'il y avait un numéro de main, des mains blanches avec la lumière noire, c'était assez extraordinaire, mais j'avais 1 minute 30 de texte. Donc je racontais ce texte et ça se terminait par liberté, égalité, fraternité. Et un soir, il y a quelqu'un qui a gueulé à poil le présentateur. Donc j'étais gêné parce que toute ma famille était dans la salle. Je lui ai dit, je vous en prie, après vous. Et puis ça fait rire tout le monde et on s'en tire par des pirouettes. Mais ce sont des expériences qui nous font mûrir un peu.
Oui, il m'en est arrivé quelques-unes avec toute l'équipe de Johnny, donc Jean-Jacques Debout et tout ça, parce que c'était la folie furieuse. Mais toutes les filles, je veux dire, j'ai vraiment vécu de près. C'est toute cette ambiance, et ça continue tout le temps, je veux dire. Et en arrivée, parce que bon, comme je faisais la tournée avec eux, on était dans des hôtels, et bien entendu, je sais pas comment elles arrivent à savoir. Donc elles étaient agglutinées. Et moi, au contraire de tout le monde, je dînais avec l'équipe, je rentrais, et je me disais, parce que c'était la foire après entre eux. Et j'allais m'enfermer à double tour dans la chambre, en me disant, pourvu qu'il y en ait un qui rentre, qui soit pas bourré, qui vienne me taper à la porte. Parce que justement, je me suis réfugiée, et chaque fois, c'est arrivé en tout cas une fois où Jean-Jacques Debout et Johnny sont arrivés, ils se sont dit non mais là Denise c'est pas possible, on va la voir ce soir, on va la faire sortir. Enfin ils savaient que ça me fichait une trouille bleue de les voir comme ça, et surtout qu'ils avaient un petit coup dans le nez quand même un peu tard dans la nuit. Donc ils sont venus taper à la porte en me disant mais Denise sors, il y a le feu dans l'hôtel, et moi qui téléphonais à la réception en disant mais ils sont fous, venez me les enlever, menacer de complètement casser la porte. Tout ça les amusait follement parce que justement je m'étais enfermée à double tour à l'intérieur.
Voilà. Ouais, on m'empêchera pas de penser quand même que Christian Morin à poil sur la scène d'Olympia, ça aurait été Noël. On se retrouve dans quelques instants.
Bah oui.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1 réunis en cette avant-veille de Noël autour de Denise Fabre, autour de Christian Morin, autour de Jean-Marie Pantalacci, deux animateurs, un réalisateur pour faire cette émission. C'est sympa, vous entendez bien, en fait vous êtes restés des potes.
On est restés des amis, mais comme je sais plus c'est Denise ou Christian tout à l'heure, l'essentiel de la radio, moi je disais, à part la technique, etc., c'est les rapports humains. Ouais. Évidemment que ça fonctionne comme ça. Ouais. S'il n'y a pas d'entente entre nous, ça fonctionne, mais l'auditeur le ressent forcément à un moment.
C'est ce que j'allais dire, oui. Les gens, à la radio, il y a quelque chose qui passe énormément, passe énormément par le micro, c'est la fragilité des uns et des autres. Et je crois que cette bonne humeur qui existait dans notre coulisse, tant du côté des journalistes que des animateurs, transpirait tellement à l'antenne que les gens s'en réjouissaient.
Ce qui est merveilleux, je trouve, en radio, qui était au début formidable en télé aussi, c'est qu'il y a une vitre, on se voit, on est là, on fait partie, c'est la même pièce. Donc on voit toutes les réactions. Moi, les fous rires que j'ai pu prendre, il y avait tous, c'était sous le pupitre. Et moi, de les voir sous le pupitre, ça y est, c'était, ça me triplait, je ne pouvais plus m'arrêter de rire. Et j'avais des voix dans le casque qui me disaient, stop, envoie le prochain disque et tout. Non, mais ça, c'est merveilleux. Et puis, bon, les petites popotes qu'on se fait entre nous, je veux dire, il y a vraiment une ambiance très familiale.
Et on pense régulièrement, peut-être en permanence, aux auditeurs, aux spectateurs.
Oui.
Oui.
Ah oui, parce que c'est le lien, c'est magique ce lien. C'est magique. Moi, je me souviens, j'avais reçu tous les hommes politiques. J'avais eu l'idée de recevoir les hommes politiques au micro d'Europe.
Oui.
Mais de parler de tout avec eux, sauf de politique. Et j'avais les auditrices en direct. Et je demandais aux auditeurs et aux auditrices de nous appeler. Alors, on parlait d'eux. Est-ce qu'ils accompagnaient leurs enfants à l'école? Comment ils s'habillaient? Qui est-ce qui choisissait leur cravate pour telle et telle intervention? Est-ce qu'ils appelaient la famille ou leur femme après? Les enfants? Comment? Et c'était drôle parce que je me souviens j'avais invité Georges Marché, qui était quand même une figure emblématique. Alors, c'était précédé toujours de petits déjeuners très intimidants où il y avait Jean-Luc Lagardère, il y avait le patron de l'information, il y avait Catherine Ney, enfin, il y avait les grands. Quoi, les poids lourds de tout ça et moi, qui me disaient, je disais à tout le monde, vous savez, je vais parler tout sauf de politique parce que bien entendu, je ne pèse pas assez lourd face à eux, c'est pas possible. Donc, ils avaient une culture et puis une façon. Donc. Et j'avais les auditrices, et je me souviens de Georges Marché ce jour-là qui était à côté de moi. Il y a une auditrice qui a commencé à lui poser des questions véritablement sur sa ligne et tout. Et il a dit, mais non, il avait sa grosse voix, je ne répondrai pas à cette question, ça gênerait ma petite Denise et tout. Là, on parlait de ses yeux bleus, on parlait de plein de choses, sauf de choses importantes à ses yeux, à lui. Mais c'était très sympa, ces émissions-là.
Toujours avoir l'auditeur en tête.
Ah, oui, moi, j'avais que ça.
On nous disait, Maurice Siegel nous donnait comme consigne d'éviter de nous tutoyer entre nous à l'antenne. Mmh. Utiliser justement le vouvoiement qui faisait que l'auditeur se sentait concerné.
On parlait des journalistes. Noël, c'est aussi l'info sur Europe 1. Deux manières d'en rendre compte. D'abord, un document d'époque diffusé sur l'antenne en 55. Europe existe depuis 9 mois. La voix du président américain Ike Eisenhower, dont les vœux de paix sont traduits par un journaliste de la rédaction.
Ladies and gentlemen, speaking to you from Gettysburg, Pennsylvania, the President of the United States. My fellow Americans at home and across the seas, my fellow men and women of every nation.
Voici la traduction du message du président Eisenhower qui nous a été fourni par les services de l'ambassade des États-Unis à Paris. Mes amis, chers concitoyens, hommes et femmes de toutes les nations, pour des centaines de millions d'entre nous, Noël symbolise les aspirations les plus profondes vers la paix et la bonne entente entre les hommes. Pendant les trois derniers mois, nous avons reçu, ma famille et moi-même, des milliers, des dizaines de milliers de messages. Chacun de ceux-ci nous a apporté des vœux amicaux de santé et de bonheur pour nous deux. Ces messages nous ont apporté une preuve réconfortante que la compréhension et la sympathie humaine peut surmonter tous les obstacles, même ceux que certains gouvernements semblent parfois soulever en essayant de nous diviser. Le monde libre arrive à la fin d'une année très significative, une année au cours de laquelle nous avons travaillé beaucoup et parfois efficacement pour la paix. Sans doute, l'état actuel de la situation internationale n'est pas à la mesure des grandes espérances du monde libre. Mais cette fin d'année n'en est pas moins plus chargée par un passé récent d'espérance pour l'avenir plus grande que celle que nous avons connue depuis plusieurs années. Or, tout être humain a droit à la paix. Tous les peuples de la Terre ont soif de paix. Aussi, pouvons-nous être convaincus ce soir, dans la plénitude de nos cœurs et selon l'esprit du Nouvel An, que les multitudes des hommes se joindront à nous en proférant une simple prière pour la paix. Chacune de ces prières sera bien entendu différente selon les caractéristiques et les personnalités des expressions individuelles. Mais dans chacune d'entre elles, nous retrouverons une pensée de la nature suivante. Puisse chacun d'entre nous s'efforcer dans la mesure de ses moyens de contribuer à une meilleure entente dans le monde, et puisse la paix de Dieu venir et demeurer parmi nous à jamais, et puissions-nous vivre dans l'espérance confiante de sa venue.
Les vœux du président américain Eisenhower en 1955, année de naissance d'Europe 1. Et pour vous resituer cet extrait dans son contexte, parce que c'est toujours intéressant, la première conférence réunissant les grandes puissances États-Unis, France, Royaume-Uni et URSS avait eu lieu quelques mois auparavant à Genève. Eisenhower s'était cette année-là déclaré prêt à utiliser l'arme nucléaire contre la Chine communiste. L'Amérique était en plein macartisme. Eisenhower venait de faire une crise cardiaque et les Noirs devaient encore laisser leur place aux Blancs dans certains endroits, plus pour très longtemps. Et on venait cette année-là d'inaugurer Disneyland. Voilà, ça permet de mettre un tout petit peu l'actualité en perspective, parce que l'actualité, et même à Noël, c'est important, hein, Jean-Marie.
Oui, absolument. Alors là, je vous parlais d'un document qu'on n'a pas entendu et que vous n'entendrez jamais. Qui concerne Noël, ça devait être en 57 ou 58. Notre correspondant à Rome s'appelait John Pazetti et il téléphone à la rédaction un jour en disant c'était à la suite d'un vous êtes formidable, un peu caritatif qui concernait un peu le monde entier. Et il avait dit, il avait été reçu par le pape, non pas en audience privée, mais enfin avec peu de gens. Et il nous dit, le pape me dit joyeux Noël, en français joyeux Noël pour tous les auditeurs d'Europe numéro 1. On lui dit formidable, passe-nous ça. Alors il va au radio-répéteur à Rome pour nous passer le document. Et là, on entend qu'il dit merde, j'ai oublié de mettre le magnétophone en marche.
Oh, oh là, on avait le pape. Et c'était, ouais, c'était Jean 23 ou c'était Paul VI?
C'était Paul VI.
C'était Paul VI. Ouais.
Voilà, donc le pauvre, il était effondré parce qu'il nous avait annoncé un document formidable pour nous et il n'avait pas enregistré.
Ça, c'est épouvantable, ça. C'est
mais l'info c'est
ça m'est arrivé, ça m'est arrivé pour Europe, mais avec au bout du téléphone des gens moins importants que le pape, encore que ce sont des gens, au moins elle, c'est quelqu'un que lui je l'ai perdu de vue, mais elle c'est une femme que j'ai toujours bien appréciée, c'est Sheila, Annie Chancel. J'ai été envoyé par Europe pour faire le reportage du mariage.
Ouais.
Et il y avait Jean-Marc Vignon, un réalisateur ici, qui voulait absolument rentrer dans la salle des mariages.
Le mariage avec Ringo?
Le mariage avec Ringo, c'était la mairie du 13e arrondissement. Et je réussis à rentrer, grâce à Mémé Ibac, qui s'occupait de Sheila, dans Claude Carrère, dans la salle des mairies, où il y allait avoir le oui prononcé. Et je rentre, et Jean-Marc Vignon, qui portait le nagra pour rentrer avec moi, se fait embarquer, tout s'arrache et je me retrouve dans la salle des mairies avec le micro et le fil, mais sans le nagra, sans enregistrer. Ce qui fait que, voilà, vous l'avez eu, mais
c'est
par
moins
votre
facile.
Radio.
Oui, c'est moins facile.
Je suis désolé.
Bon, il y a prescription d'une certaine manière. L'actu, elle va également inspirer certains humoristes de la station au moment de Noël. Alors bon, chacun son style, vous allez l'entendre. En 85, celui de Coluche sur l'antenne est plutôt du genre grinçant, mais riche d'enseignements.
Ah, c'est Noël. Noyeux Joël pour tout le monde. Noyeux pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, pour les petits vieux, pour les grands vieux, pour les gros vieux aussi, pour tous les petits vieux.
Pour tout le monde.
Voilà. Et d'abord, quelques bonnes nouvelles. Le chômage diminue, il est de plus en plus petit, on va marcher dessus. Michel Platini a pour la troisième fois le ballon d'or. Qu'est-ce qu'il fait le ballon? Il dort quand, t'as la ligne. Eh bien justement, cette période joyeuse de Noël, mes frères, mes sœurs, mes cousines, mes enfoirés... Oh pardon! Ça m'a échappé? Eh bien, le jouet français est le quatrième du monde. Tout d'abord, les États-Unis avec le sida.
Ah, premier producteur
du monde. De trous dans le cul. Deuxième, l'Afrique du Sud avec les cercueils.
Premier prix.
Troisième, la Thaïlande. Et quatrième, le Jura avec les pipes aussi, notamment à Saint-Claude. Le Père Noël, justement, est passé en Afrique du Sud. Vous le savez, jusqu'à maintenant, les Blancs tapaient sur les Noirs. Eh bien, maintenant, le Père Noël, déguisé en Oncle Sam, a livré des bombes. Et aujourd'hui, les Noirs d'Afrique du Sud ont fait éclater une bombe dans un quartier blanc.
Le Père Noël est une
merci,
ordure.
Merci, Père Noël. 7 morts. Exceptionnellement pour Noël également, la CGT s'excuse pour la grève du métro. Elle le fait bien de s'excuser elle-même, parce que si elle compte sur nous, elle peut se brosser. Dans la banlieue de Londres, dans toutes les fermes qui entourent Londres, on a volé 164 dindes. La famille d'Angleterre n'ose plus sortir. Sauf Madame Thatcher, évidemment, qui est la dame de fer, principalement à cause du fait qu'elle se met des tampons Jex. Et pend dans le cul. Merci, Père Noël.
Alléluia.
Alléluia, alléluia, comme disaient les Italiens. Alléluia, oui, mais des panzani, couillon. Merci, enfoiré de Père Noël.
Allez, vas-y, fais-le.
Je vous avais prévenu, c'est un registre à la Coluche. Coluche qui réussit quand même cette performance de nous faire rire, sourire et réfléchir à la fois. Hein, oui. L'actu. Le sourire, on est en plein Noël quand même.
Hein. Il avait ce talent, mais 85, moi ça me rappelle la naissance de mon fils, qu'il avait annoncé avec Maryse le matin, en disant la meilleure nouvelle de la journée, c'est la naissance du fils de Christian Morin. On croyait qu'avec sa petite clarinette, il n'y arriverait plus, et ben si, machin, etc. Et alors il avait demandé à Maryse, quel est le poids du gosse? Alors, Julien pesait 4 kilos 220 grammes.
C'est et bien, il avait dit 20 grammes. Les 20, le poids exact de
les 20 grammes, on les déclarera pas à la douane, parce qu'on sait jamais avec les douaniers. Combien il mesure? 52 centimètres. Et là, il avait marqué un stop. Il avait dit, alors attention, je voudrais prévenir toutes les gonzesses qui sont à l'écoute que 52 centimètres, c'est la taille du gosse. Ça n'a rien à voir avec Christian, parce que des fois que, pendant que sa femme est à la clinique, etc., et c'est, il était parti dans un délire d'improvisation.
Et aujourd'hui, tu connais encore son poids et sa taille?
Oui, oui, je me souviens. Mais à propos de clarinette, ce que je voudrais raconter, c'est que sur une idée d'Hubert, de
Hubert Wayaf, qui a été l'invité de cette émission.
Ouais. Eh bien, un jour, on faisait des émissions extérieures l'été, puisqu'on restait souvent aussi à l'antenne l'été. Il y avait quand même une ambiance assez exceptionnelle. Et sur une idée, après, en prenant un verre au Bilboquet, rue Saint-Benoît, l'idée de Hubert était la suivante.
Bon,
tu vas monter la tour Eiffel, par les escaliers, bien sûr, en jouant de la clarinette. Et à chaque fois que j'interviendrai sur l'antenne, pendant les deux heures d'émission, il faudra que tu joues de la clarinette.
Faire du souffle.
Non, on respire normalement.
Ah ouais, simple.
Et je suis parti avec une voiture d'Europe 1, un téléporte, et celui qui m'a accompagné pour monter dans les escaliers de la Tour Eiffel.
Il y avait un qui montait les escaliers.
Un téléporte, il faut dire quand même pour les auditeurs, c'est le dispositif qui permet justement de parler dans un micro tout en...
En étant relayé à la voiture émettrice par rapport à la station. Et celui qui portait le téléporte, c'était Jean-Marie Pantalacci.
Ah,
et
oui.
Et alors ce qui est amusant, c'est que...
Il est monté en haut de la Tour Eiffel?
Oui, on a eu l'autorisation d'aller jusqu'au deuxième étage seulement.
Ah, c'est bien.
Mais, pour la petite histoire, ce que je voulais surtout vous raconter, c'est que j'ai les photos de ce bon souvenir. Mais surtout, Jean-Marie et moi, on avait un casque. Moi, je jouais de la clarinette. Les touristes, ils en avaient rien à foutre de nous voir. Mais... Il nous donnait une petite pièce pensant qu'on faisait la manche.
Et tu t'es fait combien ce soir-là?
Oh, je sais plus, mais on avait fait un bon dîner.
Il faut payer l'ascenseur pour redescendre.
Exactement, hein. Oui, à peu près. Si Venise avait déjà eu son restaurant, bien sûr.
Alors Noël, sur l'antenne, toutes les émissions se mettaient volontiers au diapason, y compris les feuilletons, et parmi eux, le désormais culte, signé Furax, document de 1958, messieurs, voilà. Dames.
Tralalair, tralala, et oui, il y a de la gaieté dans l'air et de la neige sur les toits. C'est Noël, et les Parisiens préparent gaiement le réveillon. Seul, un homme s'apprête pour une autre cérémonie qui lui tient plus à cœur. C'est Furax, en habit à queue de pie, qui trépigne d'impatience dans sa villa de l'avenue des Bananes.
Malvina, Malvina, tu es prête, oui ou non?
J'arrive.
Bon, ben, je ne veux pas faire attendre tous ces messieurs de l'hôtel de ville. Tu comprends? On doit me remettre la médaille du mérite municipal, ça va être une belle cérémonie, il y aura la presse, la télévision. Alors dépêche-toi, Malvina, je t'en prie.
Oui, oui, voilà, je n'ai plus qu'à passer ma fourrure. Bah. Tu sais, celle que tu m'as ramenée de Dijon en peau de moutarde.
Ah, Philo Danon, tu as les journaux, mon petit? Est-ce que la nouvelle est un grand titre?
Non, monsieur, voyez-vous même.
Ouais, ça va, ça.
Noël, le réveillon, Père Noël.
Mais il n'y en a que pour le Père Noël dans cette première page. Et le joueur du pont de l'Alma que je leur ai rendu. Et mon acte de bravoure. Rien, moins que rien. Regarde mieux, Philo.
Mais je ne vois pas, monsieur, ni en page 2, ni en page 3.
Dans les petites annonces, peut-être.
Ah, ne sois pas blessante, Malvina.
Attendez, monsieur. Voilà.
Furax, en 1958, c'est un peu vieilli, certes. Mais Europe a aussi longtemps donné dans le conte de Noël. Je ne sais pas si vous en souvenez tous les trois, les contes que l'on demandait à des vedettes de venir lire aux auditeurs, et beaucoup ont accepté. Charles Trenet, Bourville, Mireille Mathieu, pour ne donner que ces exemples, et puis aussi en 1964, un certain Jean-Paul Belmondo.
C'est quand même curieux. Que vous soyez ambassadeur ou comédien, bourreau ou boxeur, que durant toute l'année vous ayez fait le malin, le joli cœur ou l'imbécile, que vous ayez joué du biceps, de la prunelle ou au poker, quand arrive un certain soir, vous vous sentez étrangement ému. Les plus durs à cuire, les plus fiers à bras, tout le monde y pense. Tout le monde se sent des fourmis dans la mémoire. Même ceux qui vous disent d'un air détaché, « Ce soir, je me couche à 9h. Les réjouissances à date fixe, très peu pour moi. » Ne les croyez surtout pas. Ceux-là, comme les autres, à minuit, entendront battre dans leur poitrine ce cœur d'enfant qu'ils croyaient avoir égaré, quelque part sur la route de la vie.
J'entends chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant.
Ce gentleman qui retrouve avec Noël le parfum de sa jeunesse s'appelle Andy Williams. Je dis gentleman parce qu'il est américain. Mais ce soir, pas question de nationalité. La ronde de Noël se danse en espéranto. Pour se donner la main, inutile de consulter un dictionnaire. Champagne, whisky, vodka, qu'importe la source, pourvu qu'on ait l'ivresse. Le seul qui garde la tête sur les épaules, c'est le Père Noël.
Jean-Paul Belmondo, dans un de ses contes de Noël, vous réagissiez en écoutant la musique et les textes
d'Andy Williams.
Oui, Christmas et la version française, les paroles sont de Francis Blanche.
Francis Blanche,
il savait faire ça aussi.
Qui a été aussi Francis, un des très grands de cette maison.
Ah ben c'était le personnage. En tous les cas, moi, lui et Belmar ont été deux points d'ancrage quand j'ai eu envie d'aller à Europe 1, quoi, de rentrer. Et de rentrer à Europe, c'était formidable aussi. L'étiquette sur la carte de visite.
Ça le reste.
On est à, bien sûr. Mais on travaille à Europe 1. Et je ne sais pas si je vous avais raconté cette anecdote.
On reste Europe 1 toute sa vie, hein, je crois. Franchement.
Ah oui.
Toute sa vie. Je pense. Non, honnêtement. Quand on a eu la chance quand même de participer, de faire partie de l'équipe pendant plus que 15 jours, ouais. Mais pendant 2-3 ans, je crois qu'on reste très Europe 1. Quand Europe 1 gagne, on est content. Je veux dire, c'est
bien sûr,
l'esprit c'est, d'équipe.
Mais non, d'ailleurs, on s'aperçoit du creuset que ça a été de formation de journalistes et d'animateurs. Ouais. Il y a énormément de gens qui sont passés par Europe. Mais moi, le souvenir que j'avais, c'est quand on commence à faire ces métiers dits publics, entre guillemets, quand on est à la radio, est-ce que c'est la grosse tête? Est-ce que ça fait plaisir? On est fier d'être à Europe 1. Et je me souviens avec Julie, on téléphonait en 72-73, personne ne nous connaissait réellement. On téléphonait, bonjour, c'est pour une table pour des amis. À quel nom? Christian Morin et Julie d'Europe 1. Alors ça faisait, on en abusait un petit peu. Et puis quand on arrivait dans le resto, personne ne nous connaissait puisque c'était de la radio. C'était amusant. Comme ça
rend un peu.
Ça dégonfle un peu.
Oui, de toute façon.
Merci d'être venu pour cette émission. C'est un vrai bonheur de vous avoir tous les trois.
Ah, c'est déjà fini.
Bah oui, c'est déjà terminé.
Vous
ça
voyez,
passe vite,
Marc,
hein.
Je vous avais dit qu'elle est bien.
Oui. Mais j'en étais persuadé, je l'avais dit également, Christian.
Merci, Marc.
Je vous embrasse tous les trois.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Merci,
bon Noël, Denise,
ouais.
Bon Noël.
Joyeux Noël
à tous.
Joyeux Noël à tous.
Et bon Noël, les auditeurs, bien sûr.
Oui. Bien sûr.
Et pour ma part, je vous retrouve dans une semaine, parce qu'il y a encore une émission à préparer avec l'ami Marc Exiga, qui connaît par cœur tous les musicorama d'Europe 1. On vous prépare un programme hors du commun. L'émission Collector, à la veille de la nouvelle année. Passez une bonne fin de journée, excellente semaine, et surtout, comme je vous dis toujours, une très belle radio.
C'était Marc Tronchot.